Un chapitre qu'on peut survoler rapidement sans trop comprendre. Mais quand on prend un peu le temps, on s'aperçoit de sa grande richesse. Il s'agit du chapitre de la vache rousse.
It's a chapter about the red heifer.
Ou de la génisse rousse.
Or another red word for heifer.
Une génisse, c'est une vache qui n'a pas eu encore de veau.
A heifer is a cow that hasn't actually had any of its own babies yet.
Et je ne sais pas si vous êtes sensible, tout à l'heure on parlait de prier pour Israël. Nous pouvons aussi prier là-bas pour Calvary Chapel Israël, il y a une église à Jérusalem. Mais il y a un grand mouvement de Dieu en Israël.
There's a great movement of God in Israel.
Des Juifs qui viennent à lui.
Of Jews who are coming to the Lord.
Mais la majorité, et la Bible nous l'explique, ils sont toujours aveugles.
But the majority, as the Bible explains, are still blind.
Et il y en a qui font des plans dès maintenant, depuis longtemps même.
And there are some people who are making plans, who've been making plans for a long time.
Pour pouvoir reprendre les sacrifices.
To start doing sacrifices again.
Pour revenir au judaïsme d'avant Jésus-Christ.
To go back to Judaism as it was before Jesus Christ.
Ils veulent construire le temple.
They want to rebuild the temple.
Ils ont déjà des écoles où ils forment les prêtres à tous les sacrifices.
And they've got schools where they're already training priests to do all the sacrifices.
Ils ont refait les ustensiles selon les descriptions qu'on trouve dans la Bible. Et jusqu'à présent, un de leurs problèmes, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver une vache rousse, une génisse rousse, comme la Bible le désire. Et apparemment, à travers des manipulations génétiques, ils sont arrivés à une race qui leur paraît être au point. Et tout ce qui leur manque maintenant, c'est l'autorisation politique de reconstruire le temple. Et ça pourrait être une poudrière. Powder keg. Parce que l'endroit où ils veulent reconstruire le temple, c'est le mont du dôme, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, le plus ancien édifice musulman. Certains pensent qu'on pourrait la construire à côté et être encore sur le bon endroit. Mais ça pourrait être ce qui déclenche la fin des temps dans l'esprit de beaucoup. Mais ces Juifs, ils n'ont encore rien compris, ils sont aveugles. Ils attendent encore le Messie. Ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Messie promis par l'Ancien Testament. Nous allons faire des références à l'Épître aux Hébreux qui leur est totalement destinée en fait. Et l'idée, c'est de leur montrer dans l'Épître aux Hébreux que tous les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont qu'une préfiguration, un type du sacrifice parfait, unique de Jésus mort sur la croix pour nos péchés. J'aimerais donc qu'on se tourne dans la Bible au chapitre 19 du livre des Nombres. Et je vous rappelle que les Israélites sont repartis errer dans le désert à cause de leur incrédulité. Dieu avait un merveilleux plan pour eux dans la terre promise, qu'ils devaient entrer dans cette terre promise par la foi, mais ils n'ont pas eu cette foi. Voilà, et chapitre 19, je vais lire les 10 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est prescrit par la loi que l'Éternel a commandé en disant: parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse sans malformation, sans défaut et qui n'ait pas porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il fera 7 fois l'aspersion de ce sang sur le devant de la tente de la rencontre. On consumera la vache sous ses yeux, on consumera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp, mais le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura consumé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour la communauté des Israélites, afin d'en faire une eau contre la souillure. C'est un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour les migrants en séjour au milieu d'eux. Voilà donc la description de ce rituel un peu bizarre, il faut l'admettre. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, il y avait une raison, une bonne raison, une raison très pratique. Imaginez que vous êtes en marche avec les 2 millions de juifs dans le désert. Et vous commettez un péché. Est-ce que vous croyez que vous pouvez aller voir Moïse et Aaron et leur dire, est-ce qu'on peut arrêter tout? On va réinstaller le tabernacle. Et puis on va offrir un sacrifice pour mon péché. Non, on ne pouvait pas faire ça. Le camp, la troupe des Juifs suivait, vous vous souvenez, la colonne de feu ou la nuée dans la journée. Donc en fait, cette prescription, cette ordonnance offrait une solution. C'était comme qui dirait un sacrifice portable. C'était le fast-food du sacrifice. Il fallait égorger cette vache, la brûler avec du bois de cèdre, de l'hysope. L'hysope, c'était un petit arbuste avec lequel on pouvait faire comme une espèce de... On découpait un rameau et ça pouvait servir de petit pinceau pour asperger d'eau ou de liquide, de sang. Il y avait du cramoisi.
Crimson material.
Et on pense que c'était sans doute de la laine teintée par de cette couleur rouge très vif. Ce qu'on appelle en France la cochenille, plutôt l'animal, l'insecte, ça s'appelle la cochenille, c'est une petite chenille qui s'accroche à l'écorce d'un tronc,
which attaches to, a trunk,
et qui va faire naître ses larves en restant fixées au tronc.
And which gives birth to its larva, remaining stuck.
Mais si on écrasait ces insectes, il y avait cette substance, cette couleur rouge très vive qu'on ne pouvait pas enlever des vêtements. Et souvent, ce cramoisi, c'est un type, une préfiguration de Jésus-Christ. Lui qui a versé son sang attaché à la croix, sur le bois. Et donc, une fois qu'on avait brûlé, on récupérait les cendres. Et puis on les mélangeait à de l'eau courante pour obtenir une espèce de potion. On pouvait prendre une petite branche et asperger la personne qui avait péché, et la personne était pardonnée. C'est bizarre, mais c'était la prescription de Dieu pour régler le problème du péché. ce sacrifice a été nouveau.
His sacrifice was new.
Dans le sens que normalement un sacrifice il devait être offert à chaque péché.
In a sense that normally a sacrifice had to be offered for every sin.
Mais celui-ci il est offert une fois et son effet va durer dans le futur.
But this sacrifice was offered once and then its effect lasted for the future.
À chaque fois il fallait normalement offrir un nouveau sacrifice, mais là on pouvait reprendre de cette eau.
Normally you had to offer a sacrifice for each sin, but this with this sacrifice you could take the water.
Mélangé aux cendres de la génisse rousse.
Mixed with the ashes of the red heifer.
Un seul sacrifice qui perdure.
One sacrifice which lasts.
Bien sûr, ça nous parle du sacrifice de Christ sur la croix.
Of course, that speaks about the sacrifice of Jesus on the cross.
On va faire plusieurs allusions à l'épître aux Hébreux qui s'inspire de tout ce récit pour faire éclater la vérité qu'il représente.
A lot about what these sacrifices mean in the light of Jesus.
Et dans Hébreux 9,
Hebrews 9,
pouvez-vous y tourner, garder peut-être un marqueur ou garder le doigt dans Nombre 19. Et Hébreux 9, verset 13. Fait allusion directe à ce sacrifice de la génisse en disant « Si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?
For if the blood of goats and bulls, with the sprinkling of the ashes of a heifer, sanctifies those who have been defiled, so that their flesh is purified, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to worship the living God ?
Vous remarquerez que ces cendres d'une génisse pouvaient purifier la chair. C'était une pureté de surface.
It was a surface purity.
On y reviendra, c'était ce qu'on appelait une pureté cérémoniale.
Just a ceremonial purity.
Qui permettait d'entrer dans le tabernacle.
Which allowed you to enter into the tabernacle.
Mais le sang de Christ, lui, qui s'est offert par l'Esprit éternel, lui, il purifie notre conscience. C'est un travail en profondeur.
But the blood of Christ, he purifies our conscience right in the depths of our being.
Pourquoi cette vache devait-elle être rousse? Certains pensent que peut-être c'est le même mot en hébreu, rousse, rouge, et peut-être que c'est aussi un type du sang qui devait couler.
Why did this heifer have to be red? Some people think that it's also a reference to redness, i.e. the blood that was to be shed.
Il fait référence que cette vache ne devait pas avoir porté de joues.
It's clear that this cow was not allowed to have any blood or liquid in it.
Il y a quelqu'un là qui... Il pleure un peu. Si un parent reconnaît. Le joug fait référence aussi au joug du péché.
The juice, or the yoke.
The yoke.
Oh, sorry.
Le joug.
The yoke also is referred to the yoke of sin.
Jésus, lui, n'a jamais porté ce joug.
Jesus never carried this yoke.
Son joug dont il parle dans Matthieu 11,
the yoke that he talks about in Matthew 11,
c'est celui d'être assujetti à la volonté de son Père.
It's the yoke of being subject to the will of his father.
Il fallait remettre donc cette vache au sacrificateur.
So they had to take this cow to the high priest.
Et on l'égorgeait devant lui. Il aspergeait le sang avec le doigt sept fois devant le tente de la rencontre. Et ce nombre 7, vous vous souvenez, ça représente la perfection du sacrifice.
Of the perfection of the sacrifice.
Mais la vraie perfection, c'était le sacrifice de Jésus qui l'a amené, dans le fait qu'il n'était un sacrifice unique, une fois pour toutes. Il est répété beaucoup de fois, si vous lisez, je vous invite, on n'a pas le temps ce matin, mais à lire pour vous-même les chapitres 9 et 10 de Hébreux. On va peut-être lire juste le chapitre 10, le début du chapitre 10 ensemble. La loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament et les ordonnances, en effet possèdent une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ce qui s'approche ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu conscience de leurs péchés? Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible, encore une fois, que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché.
Since the law has only a shadow of the good things to come and not the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered year after year, make perfect those who approach. Otherwise, would they not have ceased being offered, since the worshippers, cleansed once for all, would no longer have any consciousness of sin? But in these sacrifices there is a reminder of sin year after year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.
Verset 14, par une seule offrande, parlant de Dieu, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés.
Verse 14, for by a single offering he has perfected for all time those who are sanctified.
Ça, c'est la différence fondamentale entre le sacrifice de Christ et le sacrifice de l'Ancien Testament.
That's the fundamental difference between the sacrifice which Jesus made and the sacrifices in the Old Testament.
Terminons la lecture du chapitre 19. Revenons à 19, chapitre 19, verset 11. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas dès le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Quiconque touchera un mort, un corps humain qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée d'Israël. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur elle, elle est impure et son impureté est encore sur elle. Voici la loi. Lorsqu'un être humain mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout récipient découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans la campagne un homme tué par l'épée, un mort, des ossements humains ou un tombeau sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime pour le péché qui a été consumé, et l'on mettra dessus de l'eau courante dans un récipient. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les récipients, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, un homme tué, un mort ou un tombeau. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il nettoiera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour une prescription perpétuelle, celui qui fera l'aspersion de l'eau contre la souillure nettoiera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau contre la souillure sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur deviendra impur, et la personne qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Des détails très précis. Un principe fondamental. Un contact avec la mort entraînait une impureté. C'est une vérité à plusieurs titres. Il a fallu attendre les travaux de Pasteur et de la médecine dite moderne pour savoir que les cadavres, la corruption transmettait les microbes et les maladies. Il y avait donc un aspect pratique à ces prescriptions pour protéger la santé du peuple d'Israël. On a entendu parler d'autres populations de l'Antiquité qui ont été complètement éliminées par des maladies. Il y a une richesse incroyable dans cette Bible. Il y a des médecins aux États-Unis qui font des recherches basées sur les descriptions médicales ou physiques de la Bible et qui trouvent des nouvelles choses. Nouvelle pour la médecine, mais pas nouvelle pour Dieu. Il y avait donc cet aspect d'hygiène médicale, mais il y avait aussi le fait de pouvoir participer au culte de Dieu. Et si on entrait en contact avec des morts, que ce soit des morts, quelqu'un mourait dans notre tente, on était impur. Vous vous souvenez, dans Matthieu, on va voir que Jésus parle des sépulcres blanchis. Il les peignait en blanc pour qu'on les repère bien et qu'on les touche pas par accident, parce qu'ils croyaient toujours être souillés cérémoniellement. Donc on voit ce rapport entre la mort et l'impureté, entre la mort et le péché. Vous vous souvenez que la mort n'existe pas avant que le péché ne vienne dans le monde. Dieu avait parlé à Adam et Ève et leur avait dit: vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis Paul nous explique que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le jour où Adam a désobéi à Dieu, le péché est entré dans la race humaine. Et il nous dit que la mort est passée sur toute la race humaine, sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En Adam, notre représentant initial, nous avons tous péché, tous désobéi à Dieu. Et maintenant, nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Et donc, on voit ce de façon très visuelle. Encore une fois, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de télévision à l'époque. Ces choses frappaient l'imagination des Juifs et devraient frapper notre imagination aussi. Parce qu'en fait, tout le système des sacrifices de l'Ancien Testament est destiné à nous montrer une seule chose: que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Et que pour être rétablis dans une relation de communion avec lui, quelque chose, quelqu'un doit nous purifier de nos péchés. Et des fois, on se dit, mais c'est compliqué. Là, quand on lit, il faut s'accrocher. Et tout le message de l'Ancien Testament nous montre que nous devons être purifiés de notre péché. J'écoutais un message de Brian Broderson, qui sera encore une fois notre invité pour le week-end à la montagne, et qui est un excellent enseignant de la parole de Dieu. Et il aime poser la question suivante: est-ce que vous avez remarqué une chose dans la Bible? Que l'Ancien Testament est plus de 3 fois plus grand que le Nouveau Testament. J'ai fait le compte, il y a 946 pages d'Ancien Testament pour seulement 292 pages de Nouveau Testament.
1,000 for 300.
On entend souvent dire aussi, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'Ancien Testament, puisque maintenant on a le Nouveau Testament? Dans la publicité, dans le marketing, si on vous vend le nouvel homo,
in advertising, if you want to sell the new homo,
Tide, soap, detergent,
oh, okay.
On n'a plus besoin de l'ancien homo.
You don't need the old kind.
Alors pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de l'Ancien Testament? Parce que le nouveau est bâti sur la révélation de l'Ancien Testament. Ou plus exactement, comme quelqu'un l'a dit, le Nouveau Testament, il est caché dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, lui, il est révélé dans le Nouveau Testament. Alors c'est vrai qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament, on comprend qu'elles puissent nous intéresser. On aimerait marcher avec la foi dans notre vie. Alors on peut lire l'histoire d'Abraham, en retirer des enseignements qui vont nous enrichir pour vivre au quotidien. On peut avoir envie de progresser dans la fidélité, d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Alors on lit l'histoire de Daniel, et on apprend beaucoup de choses sur ce que ça veut dire qu'être fidèle. Pas de problème pour comprendre l'intérêt de ces passages. Mais lorsqu'on arrive dans le Lévitique, dans les Nombres, dans Deutéronome, toutes ces prescriptions, ces ordonnances compliquées, répétées, qui diffèrent un peu suivant les cas, on a dit, oh, ce que c'est barbant, c'est ennuyeux. Il n'y a rien de tel pour que les gens s'éloignent de Christ. No wonder people don't want anything to do with it. Brian réplique que ces sacrifices sont importants, critiques. Parce qu'il s'agit de faire entrer dans notre tête que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu tant que le problème du péché n'est pas réglé. Et si on fait un sondage dans la rue, on s'aperçoit que l'immense majorité ne ressent aucun besoin de purification. S'ils veulent bien admettre peut-être l'existence de Dieu, ils pensent qu'ils peuvent s'approcher de lui en lui disant « Bonjour Dieu, comment ça va ?» Et tout le système des sacrifices nous apprend la nécessité d'expier notre péché, de régler ce problème pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Parce que dans notre état naturel, nous devons admettre que nous sommes irrémédiablement souillés et séparés de lui. Brian fait remarquer qu'il y a même des commandements qui nous semblent injustes et cruels. Ainsi, une femme qui donnait naissance à un enfant était impure. Elle ne pouvait pas, après son accouchement, récupérer quelques heures ou quelques jours et puis retourner au temple. Elle devait d'abord offrir une offrande pour le péché. Quel péché ? Elle avait amené une personne dans le monde. Et d'après Dieu, amener un être humain dans le monde, c'est le péché. Alors on dit, mais c'est pas possible. Un petit bébé, c'est si mignon. Sauf quand il pleure. Quand ils pleurent, en fait, ils montrent leur vraie nature.
When they cry, they're in fact showing their true nature.
Leur suprême égoïsme.
Their selfishness.
Qui ne supporte pas d'être contrarié en quoi que ce soit.
They can't bear to be, rebuked or stopped.
David disait, voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché, ne faisant pas référence à l'acte sexuel, mais référence à la nature humaine.
David said that he was born in sin and conceived in sin, not talking about the act of sexual intercourse, but the fact that he was sinful from birth.
Le péché, il est dans nos gènes.
The sin is in our genes.
J'allais dire, il nous colle à la peau, mais c'est plus que ça. Même si on arrache la peau, le péché est encore là.
It's not just stuck to our skin, it's more than that. Even if we were to tear off our skin, the sin would still be there.
La seule façon, ça c'est la musique ancienne, on parle de la Madelon, c'était de suivre la prescription donnée par Dieu. Et il faut bien réaliser que si, Seigneur, on te demande de calmer cette musique, quiconque essaye de s'approcher de Dieu sans que le problème du péché soit réglé, n'a aucun accès à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument impossible à une personne d'une autre religion qui rejette Jésus-Christ et son sacrifice d'être acceptée par Dieu. Il se peut qu'une personne d'une autre religion soit plus dévote, plus pieuse, plus consacrée, plus fervente dans la pratique de sa religion qu'aucun autre chrétien que vous ayez connu. Elle peut prier, elle peut jeûner beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps. Elle peut donner de l'argent davantage, renoncer à elle-même de façon spectaculaire. Mais en dépit de tous ces efforts, ces personnes n'ont pas accès à Dieu. Pourquoi ? Parce que le problème du péché n'a pas été réglé. La seule façon de le régler, c'est la façon dont Dieu nous dit qu'on peut le régler. Dans les autres systèmes religieux, le problème du péché, il est escamoté. Il est complètement ignoré ou minimisé ou alors contourné en proposant l'adhésion à certaines règles de vie qui sont supposées faire de nous, entre guillemets, des meilleures personnes, des personnes meilleures. Mais en fait, tout l'Ancien Testament veut nous montrer que c'est totalement impossible. La seule façon, c'était à l'époque de recevoir cette aspersion de l'eau et des cendres.
In the past, the only way to be cleansed was to receive this water.
Et maintenant, c'est bien sûr le sang du Christ qui peut nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos iniquités.
But now it's the blood of Christ which can purifies all our sin and iniquities.
Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu si nous ne passons pas par Jésus-Christ et son sacrifice. Le seul accès au Père, c'est par le Fils. Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Certains diront, « C'est très intolérant. » C'est très étroit d'esprit. Les pauvres ceci, les pauvres cela. Dites-leur qu'ils sont dans l'erreur. Dites-leur qu'il n'y a qu'une seule façon de régler le problème du péché. Il y a ce pardon du péché une fois pour toutes. Mais vous vous rappelez, on a dit au départ que c'était une espèce de sacrifice quotidien.
But remember that in the start, this was their sacrifice that was offered daily.
dans leur marche à travers le désert, s'ils se souillaient par leur péché, alors ils pouvaient recevoir cette purification. Et moi, quand je marche dans ma vie de chrétien aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, je me souille. Ne me dites pas que vous ne vous souillez pas. Le monde qui est autour de nous est là pour nous souiller. Et quand nous péchons, Christ ne va pas s'offrir une seconde fois un sacrifice. Jean nous a dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7.
John says in 1 John 1, 7, but if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin.
Cette lumière, c'est la parole de Dieu.
This light is the word of God.
Si nous marchons dans la lumière,
if we walk in the light,
nous voyons que nous sommes sales.
We see that we're dirty.
Et que nous avons besoin d'être lavés.
And that we need to be washed.
On a vu qu'il y avait deux étapes dans l'aspersion. Il y avait d'abord le troisième jour. Et puis le septième jour, il y avait aussi la purification finale. C'est peut-être une indication qu'il y a deux étapes aussi dans ce retour à une relation pure avec Dieu. Il y a d'abord l'action du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, c'est la conviction. Puis ensuite, il faut confesser notre péché à Dieu. C'est la deuxième étape. On peut être convaincu de péché, mais ne pas se tourner vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer le sang de Jésus alors ? Ça veut dire laisser l'Esprit Saint me souvenir de son sacrifice parfait. Ça veut dire avoir un cœur contrit qui veut se repentir, qui ne veut plus recommencer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Là aussi, il y a deux choses, il y a le pardon et la purification. Le pardon, nous l'avons reçu lorsque nous avons laissé entrer Jésus-Christ dans notre cœur. Et nous n'avons plus de soucis à nous faire pour notre vie future, éternelle. Mais au contact du monde, nous avons besoin d'être purifiés. Un autre auteur disait, j'essaye de prendre une douche. J'ai pris une douche ce matin. Mais il est possible qu'aux yeux de Dieu, je sois encore sale. Peut-être que vos yeux sont sales parce que vous avez regardé des choses que vous n'auriez pas dû regarder. Vos oreilles sont sales parce que vous avez écouté des ragots. Vos mains peut-être sont sales parce qu'elles ont fait des choses qu'elles n'auraient pas dû faire. Peut-être qu'elles ont triché sur la feuille d'impôt. Peut-être qu'elles ont gardé le stylo du travail. Peut-être qu'elles ont serré le cou de quelqu'un. Peut-être que vos pieds sont sales parce que vous êtes allé là où vous n'aviez rien à faire. Et ce n'est pas en venant à l'église que ça va arranger les choses. Qu'est-ce qui peut vous laver ? Jésus, le sang de Jésus. Mercredi soir, nous sommes dans l'étude de l'évangile de Jean. Nous arrivons au chapitre 13. Nous invitons d'ailleurs à venir à ces études si vous n'avez pas. Ce sont des études interactives où on peut poser les questions et rechercher ensemble la vérité. Vous vous souvenez que Jésus s'était revenu du tablier de servant, de serviteur, pour laver les pieds de ses disciples. Et Pierre lui avait dit, non. Jamais tu me laveras les pieds. Et Jésus lui avait répondu, si je te lave pas, tu n'as point de part avec moi. Nous devons laisser Jésus nous laver. Et pas seulement une fois par mois. Peut-être qu'une douche par jour, ça suffit pour nous maintenir dans un état de propreté satisfaisant. Sauf si on va faire de la course à pied qu'on revient pour une pour travailler au bureau. Mais si une douche peut suffire, j'ai besoin de plusieurs bains spirituels par jour. Chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, que je réponds dans la colère, que j'ai un réflexe d'égoïsme, je dois demander à Christ de m'en nettoyer. En prendre conscience, le confesser et recevoir son pardon et sa purification. Ce même auteur dit qu'en fait cette eau avec les cendres de la génisse, c'était un peu leur déodorant pour pouvoir marcher en communion avec Dieu. Et aujourd'hui nous allons prendre la Sainte Cène. Nous allons avoir un temps où nous allons pouvoir confesser à Dieu nos péchés, se rappeler de son sacrifice pour que nous puissions être purifiés et que nous puissions marcher avec lui dans une communion restaurée. C'est tout cela que la vache rousse veut nous rappeler. Nous allons prendre un temps maintenant de réflexion sur le sens de la Sainte Cène. Jésus a dit qu'il était le pain de vie. Le vendredi après-midi où il avait été crucifié, ça correspondait au début de la fête des pains sans levain. Il avait dit qu'il était le pain descendu du ciel, le pain de vie. Jésus avait dit qu'il était le pain de vie. Il avait même dit, on l'a vu aussi le mercredi, que si le grain ne tombe en terre, il meurt, et ne meurt, il reste seul, et il ne porte pas de fruits. Ce Jésus, ce rabbin, rabbi, a été, pour ainsi dire, enterré, planté pendant la fête des pains sans levain. Et quand nous prenons ce pain sans levain, nous rappelons ce sacrifice. Une autre chose que nous ne connaissons souvent pas, mais qui parlait beaucoup aux disciples parce qu'ils étaient imprégnés de cette culture juive, c'est que lorsque un jeune homme voulait épouser une jeune femme, plus exactement, c'est lorsque la famille d'un jeune homme avait choisi une jeune femme pour cet homme, les deux pères se rencontraient pour négocier du prix de l'épouse. Et ce prix était généralement très élevé.
And this price was normally very high.
Il y avait donc des négociations qui se passaient.
So there were negotiations.
Et l'usage voulait que le père du jeune homme prenne une coupe de vin.
And customs, dictated that the father of the young man had to take a cup of wine.
Et qu'il la passe à son fils, qu'il l'attende à son fils. Son fils se tournait vers la jeune fille, prenait la, levait la coupe qu'il avait prise.
And the young man would take the cup of wine and pass it to the young woman.
Et lui disait, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang.
And say that this cup is a new alliance in my blood.
Et ce que ça voulait dire, je t'aime.
And that means I love you.
Et je te donnerai ma vie.
And I will give you my life.
Veux-tu m'épouser?
Do you want to marry me?
La jeune fille avait le choix.
The young woman had the choice.
Elle pouvait prendre la coupe et la rendre en disant non, merci.
She could take the cup and give it back, saying no, thank you.
J'imagine que le jeune homme était un peu inquiet à ce moment-là.
The young man was a bit worried at this point.
Ou bien elle pouvait répondre sans dire un mot.
Or she could reply, but without saying anything.
En buvant la coupe.
By drinking the cup.
Et c'était sa façon à elle de dire, j'accepte ton offre et en réponse, je te donne ma vie.
And that was her way of saying, I accept your offer and in reply, I give you my life.
Et donc les disciples avaient tout ce contexte dans l'esprit lorsque Jésus leur a pris cette troisième coupe. Il avait dit les paroles traditionnelles, tu es béni Seigneur Dieu, roi de l'univers, pour nous avoir donné le fruit de la vigne. Mais lorsqu'il a dit cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang que je vous offre. Alors là, ça a dû un peu les choquer. Parce que c'était les paroles pour proposer un mariage à une jeune fille. Mais quelque part, c'était Jésus qui disait, j'ai pas d'autre illustration plus forte pour vous faire comprendre l'amour que j'ai pour vous. Peut-être qu'ils ont compris que Jésus était prêt à mourir pour eux, à être enterré, ressuscité. Et maintenant, lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous souvenons bien sûr du sacrifice, mais nous devons nous souvenir de l'offre de Jésus, qui nous dit encore, je vous aime, je vous offre ma vie, voulez-vous m'épouser? Et prendre la coupe, c'est un moment solennel. Parce que là, c'est une réponse à Dieu le Père. Où on dit, oui, j'accepte ton amour, et en réponse, je te donne ma vie. C'est un aspect souvent méconnu de la Sainte Cène. Et je vais demander maintenant à Tonio et Paul de bien vouloir passer les éléments. Vous allez les garder en attendant qu'on ait tous reçu. Encore une fois, c'est réservé à ceux qui ont déjà fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur.
So we ask you to keep the elements until we've all received them. Again, this Holy Communion is for those who have made Jesus their Lord and Savior.
Nous allons maintenant passer un temps dans le recueillement.
So we're going to reflect now.
Confessons nos péchés à Jésus.
Confess our sins to Jesus.
Rappelons-nous de son sacrifice.
Remember his sacrifice.
Prenons un temps de silence maintenant. C'est peut-être aussi le moment de demander pardon à un frère ou une sœur qu'on a offensé.
Perhaps also the time to ask forgiveness of a brother or sister that you may have offended.
N'ayons pas peur de le faire.
Don't be afraid to do it.
Prenons ensemble le pain donné par le pain du ciel. Prenons et nous. réalisons que c'est en réponse à l'offre de Dieu qui nous dit « Je vous offre ma vie, voulez-vous m'épouser ?» que nous allons prendre maintenant le vin en signifiant « Oui, j'accepte ton amour » et en réponse « Je te donne ma vie ». Prenons le vin, le signe de cette nouvelle alliance. Merci Seigneur. Nous allons chanter ensemble un dernier chant. J'ai demandé à Tonio et Michael peut-être de le chanter. Pendant que Paul reprend les petites coupes. merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous aide à marcher dans la sanctification, qu'il vous purifie. Venez à lui, il vous attend. Amen. Bonne semaine.